y sommes. Bonjour, bonjour les auditeurs de Radio Galère. Bonjour Aïcha, on est content de te retrouver.
Bonjour.
Voilà, bonjour à mes complices habituels, Roselyne et Habib qui est de retour de Syrie et il va nous parler de ses impressions de voyage. On compte sur lui. Alors je vais commencer par une annonce qui est l'annonce de l'émission que vous pourrez écouter demain. Une émission donc qui est un dossier, vous savez, les émissions du deuxième mercredi du mois sur Radio Galère, c'est un dossier sur un sujet. Le sujet est assez particulier et je vous le présente. Il s'agit d'une histoire, une brève histoire en une heure et demie d'un grand pays qui s'appelle l'Indonésie. Un pays qui est grand, dont on parle peu parce que les rapports entre l'Indonésie et la France ne sont pas très étroits. La France n'a pas été le colonisateur. Elle a eu quelquefois des intérêts, mais peu de choses. Et donc, c'est un pays mal connu. Et pourtant, c'est un pays qui est en train de devenir important. D'abord, il l'a été par la place qu'il a prise dans l'histoire de la décolonisation. Un rapport tout à fait éminente, et d'autre part, il est en train de le devenir, parce que c'est devenu ce qu'on appelle en économie un pays émergent, c'est-à-dire un pays avec une économie florissante, qui a d'énormes ressources naturelles, qui a une industrie, c'est-à-dire qui ne s'est pas contenté, par exemple, d'être le premier producteur de nickel du monde, mais qui aussi transforme le nickel sur place. Ça fait partie aussi d'un processus d'industrialisation qui est en cours. Il a du pétrole, il a du charbon, il a des ressources agricoles de très grande qualité, des grandes zones agricoles, producteur de riz, producteur de tas de fruits tropicaux. Donc, un pays qui devient puissant et qui compte quand même 280 millions d'habitants aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est en population le quatrième pays le plus peuplé du monde. Alors il y a tout loin, très loin devant les deux premiers, la Chine et l'Inde. Après, mais bien loin derrière, les États-Unis qui sont autour de 330 millions. Et après, le quatrième pays le plus peuplé du monde, c'est l'immense Indonésie avec toutes ses îles. Et ce pays a vécu une aventure particulière puisqu'il est parti de la situation de principale, et même pas l'unique, mais principale colonie des Néerlandais. Et puis il s'est débarrassé du colonisateur hollandais dans des conditions assez difficiles qui vous seront expliquées dans l'émission. Et il est émergé, il a émergé autour des années 45-50 dans des conditions très très difficiles comme le pays, le phare un peu de la décolonisation, c'est-à-dire la première affirmation, c'est le sens de la conférence de Bandung dont vous avez tous entendu le nom, l'affirmation de l'émancipation de l'Afrique et de l'Asie du colonisateur blanc. Je fais simple, du colonisateur européen. Et donc, il a gardé ce rôle-là. Il lui en a coûté pas mal parce qu'on lui en a voulu du côté des colonisateurs qu'il ait tenu ce rôle-là. Mais il l'a tenu. Donc, il a tenu un rôle éminent et il occupe aujourd'hui une place importante puisqu'il est devenu donc un pays émergent, qu'il est membre du G20. Donc, il fait partie des 20 premières économies mondiales en termes de production. Et il accueille, et c'était ça l'occasion de parler de ce pays-là, il accueille donc au mois de novembre prochain à Bali, le sommet annuel du G20, dont il a la présidence tournante jusqu'à cette période-là. Donc il va être sous les phares des projecteurs mondiaux pendant toute une semaine au milieu du mois de novembre. D'où l'intérêt d'en parler, outre le fait que c'est une histoire passionnante et très mal connue. Je vous dis, là encore, j'insiste, parce que la France n'a pas eu beaucoup d'intérêt. Le seul moment où la France s'est intéressée, c'est au moment, alors qui a été très bref. Vous vous souvenez que Napoléon Bonaparte avait l'habitude d'aller un peu envahir les voisins, hein, ça on le sait. Et il avait, entre autres, envahi le Benelux, enfin la Belgique et les Pays-Bas. Et à un moment donné, je crois que c'est en 1810, Napoléon met un de ses frères comme roi des Pays-Bas. Et il se trouve qu'à ce moment-là, puisque les Pays-Bas sont le colonisateur de l'Indonésie, on a un des frères de Napoléon qui est empereur d'Indonésie. Mais ça ne dure pas. Waterloo arrive, 1815 et tout. Bon, donc voilà. Les rapports entre la France et l'Indonésie ont été très, très ténus, puisque ça a été une période très, très brève. Et après, l'Indonésie est retombée entre d'autres mains, principalement les mains néerlandaises, avant de passer entre les mains des États-Unis. Voilà ce que je voulais dire pour annoncer l'émission de demain soir que je vous invite à écouter, parce que elle parle d'un sujet dont on ne vous parlera pas, et je pense que la façon dont on présentera le sommet du G20 sera une façon anecdotique et sans grand intérêt. J'avais eu l'occasion d'évoquer, je crois qu'il y a une quinzaine de jours, le fait que Madame Truss, la nouvelle première ministre britannique, qui donc fait partie du G20 et va être invitée à Bali, avait dit que si elle rencontrait Vladimir Poutine, elle lui donnerait des claques. Bon, alors, ça n'aura probablement pas lieu. Hein. Et puis, d'ailleurs, les Indonésiens ont dit, ils sont très soucieux du rôle qu'ils ont, nous organisons pour que tout se passe bien, tous les membres du G20 sont invités, et ils ont bien insisté en disant, Monsieur Poutine est invité, il est membre du G20, il a sa place, point à la ligne, comme tous les autres.
Il n'a pas donné de réponse, je crois, jusqu'à présent.
Non, alors la Russie dit, vu les circonstances actuelles dans le pays, il n'est pas évident que le président fasse le déplacement. Ouais, ouais. Mais l'invitation a été reçue. L'Indonésie a dit qu'elle avait pris des mesures pour que M. Poutine soit logé à un endroit où on ne viendra pas lui donner des claques. Hein. Et donc tout ça a été organisé. Bon, on a tendance à considérer ça comme un pays lointain, un peu exotique et tout. Non, on a un pays sérieux qui travaille, qui est organisé, je dis, et qui compte pas loin de 300 millions d'habitants et qui a des moyens matériels. Donc c'est ça qui est important de bien se mettre dans la tête. Bon, alors on verra si effectivement le président russe peut distraire une semaine pour faire le voyage, où il sera remplacé par quelqu'un. Mais ça montre que, de toute façon, la pression qui a été exercée sur le président indonésien, donc M. Widodo, a été forte pour lui dire « Il ne faut pas inviter Vladimir Poutine ». Il a dit « Mais attendez, moi, je suis l'organisateur, je suis à la tête du G20, président en exercice, j'invite tous les membres du G20. Moi, je n'accepte pas qu'on me dise comment je travaille, c'est tout. Non. Ça fait partie de sa façon d'être dans le monde contemporain, et il est bon de le rappeler. » Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Et puis ensuite, on va profiter donc de la présence d'Habib, retour de Syrie.
Je voulais juste dire qu'il ne faut absolument pas hésiter à écouter cette émission qui est sur un sujet totalement inédit. Ouais, voilà, c'est très important.
Alors, merci Roselyne. Alors, effectivement,
soit en direct, soit en podcast.
Voilà, cette émission, elle est déjà enregistrée, elle est dans la boîte, hein, puisqu'elle a été enregistrée tout à l'heure. Hein, et donc, on vous invite à l'écouter. Et puis, il y aura des suites, puisqu'on fera écho certainement au sommet du G20 au moment où il aura lieu. Mais c'est une façon pour des Français qui sont très très peu au courant de ce pays-là, avec lesquels, oui, la France n'a pas beaucoup de relations étroites, de découvrir un pays dont on ne parle pas et dont peut-être on nous fera une présentation un peu sommaire, j'imagine, au moment du G20. Voilà, c'est dit. Et maintenant, donc, on va demander à notre ami Habib de nous raconter ses impressions de Syrie après une quinzaine qu'il a passée au pays. Voilà. On t'écoute.
Bon, ben, je suis parti de Marseille, bien sûr, directement sur Beyrouth, parce que la Syrie, il y a l'embargo même aérien là-dessus, aussi bien du côté occidental,
voilà,
que du côté
américain. Ça aussi, c'est bon de rappeler ce que c'est qu'un embargo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne directe, alors qu'il y en avait. Hein, il y avait à Marseille, je me souviens, une agence de Syrianair, où on pouvait très bien faire un direct exactement. Marseille-Damas sans problème. C'est donc interdit.
Donc le plus grand problème pour moi, c'était Beyrouth, la frontière syrienne, c'est-à-dire partir de Beyrouth en taxi, qui nous a coûté pratiquement un aller en avion.
Ah, ouais, et oui,
voilà,
parce que
ça coûte cher.
Zone d'incertitude,
taxi
zone de guerre,
pour,
etc.
Pour 120 km de Beyrouth, Tartous. Alors, bien sûr, les frontières sont très, très sévères. Et on était obligé de passer pratiquement plus de 2 heures d'attente aux frontières.
À chaque contrôle.
Oui. Et il y a des contrôles des valises, il faut les ouvrir, voir si tout ce qui est dedans, tout ça, bon, bien sûr. Mais le problème, c'est que moi, j'avais apporté pas mal de produits pour les gens qui sont démunis, surtout. J'avais une valise j'avais droit à 20 kilos plus 10 kilos dans la cabine. Mmh. Donc, c'est surtout le problème de la valise. Alors, le problème de la valise, quand le monsieur, il a ouvert, et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites du commerce? Je lui ai dit, non, c'est pour uniquement aider les pauvres gens qui se trouvent en Syrie, tout ça. Bon, il n'était pas très convaincu.
Il était dans le doute, voilà. Ça ne se fait pas. Un monsieur qui voyage pour faire le bien.
Qui a traversé 4000 kilomètres pour venir faire du bien. Mais bien sûr, ça posait un petit peu de problème.
Il ne te croyait pas, quoi. Il ne voulait pas te croire.
Et l'ambassade m'avait donné, à Paris, m'avait donné un papier comme quoi je fais ça chaque année.
Voilà, et à titre humanitaire.
Et je remercie beaucoup le personnel de l'ambassade de France à Paris, l'ambassade syrienne, fonctionnaire d'État. Et ce monsieur, il m'a donné un papier. Et le monsieur, quand je lui ai présenté le papier, il a fermé aussitôt la valise et il m'a dit « Ma salami ».
Voilà, allez-y.
Allez, bon voyage. Bon.
Très bien.
Donc, on est rentré à Tartous, tout s'est passé bien. Je me suis dit « Je prends une journée pour me reposer ». Et évidemment... la Syrie, on a essayé de la mettre à genoux. Avec l'embargo occidental, César, la loi César et la loi, la loi César par les Américains, je crois.
Oui, c'est une loi américaine.
Et Castre, c'est les Européens, il me semble. Il y a deux embargos. Et on a essayé de mettre à genoux la Syrie. Et le peuple syrien a très bien compris la situation. Et je pense qu'ils ne peuvent pas mettre la Syrie à genoux. Et évidemment, donc moi, j'avais pour mission, j'avais des dons de l'Association de solidarité et d'aide franco-syrienne. Et ces dons montaient environ à 8 millions de livres syriens. Donc... pendant ces 14 jours que je devais passer en Syrie, j'ai eu un problème. Un problème de santé. Et ça m'a obligé de rester au lit pendant 5 jours. Donc, ça m'a. Donc, le temps.
Tu n'as pas pu faire tout ce que tu pensais faire.
Voilà. J'ai essayé, par contre, de le faire totalement. Tu sais bien comment je suis, Bernard.
Oui, bien sûr.
J'y vais jusqu'au bout. Alors, j'ai été donc à l'association Sanabil Homs. C'est une association sérieuse et qui travaille beaucoup avec les veuves, les orphelins et surtout les blessés de guerre. Et donc là, j'ai donné une somme assez importante. J'en ai pris des photos. Alors, le problème du...
De l'enregistrement,
les gens ont m'a conseillé, on m'a complètement déconseillé là-dessus.
De faire déjà.
Ouais, on m'a dit, il vaut mieux pas faire des enregistrements parce qu'on va vous contrôler. Mm-hmm. Il y a des fonctionnaires d'État syrien qui vont vous demander que... Donc, on m'a déconseillé et bon...
À la limite, risquais même peut-être la saisie de l'appareil d'enregistrement.
Voilà, donc finalement, je n'ai pas voulu le faire. Et à Sanabil, j'avais dit que j'aimerais bien voir Damas. Et tout particulièrement, j'avais une visite avec le père Elias Zahlaoui. C'est un père... qui travaille à Notre-Dame de Damas. Et c'est un monsieur qui a écrit sur la guerre de la Syrie toutes les lettres qu'il a envoyées en Amérique, en Europe, un peu partout. Il a écrit des lettres pour stopper, et surtout le pape.
Donc il s'agit d'un prêtre catholique.
D'un prêtre catholique. Elias Zahlaoui est très connu en Syrie. Et il est connu aussi, surtout en France, puisqu'il a passé pas mal de temps en France avec un choral. Donc c'est un père très, très respectable et qui nous a bien reçus et qui nous a dédicacé son livre qui est écrit en français. Par lui-même. Voilà. Donc, de Damas, une fois que le travail... Bon, j'avais proposé une aide à Notre-Dame de Damas et Zahlaoui, il m'a dit, nous, on reçoit beaucoup d'aides et j'aimerais que tu les donnes aux pauvres. Voilà. J'ai dit, bon, c'est parfait, je le ferai volontiers. Bon. De Damas, je suis parti donc à Tartous. Et évidemment, c'est grâce à l'association Sanabil qu'ils ont mis à ma disposition un chauffeur. Mmh. Ils n'ont pas voulu qu'on me laisse partir ni dans un pullman, ni dans un taxi, ni rien, très cher. Ils m'ont accompagné à Damas. Et de Damas, on est parti de Tartous. Et de Tartous, de là, j'ai aussi réuni pas mal de blessés de guerre et des femmes veuves que j'ai distribué des enveloppes de l'ordre à peu près 40-50% de salaire moyen que touche un ouvrier syrien, voilà. Ou un militaire, si vous voulez. Ou, voilà. Donc 40%, 50% à peu près. Une fois que Tartous a été effectué, je suis parti du côté de l'attaqué, automatiquement aussi. J'ai dû dormir une nuit et j'ai demandé d'aller à l'attaqué. Là, ils m'ont dit, on ne veut pas que tu ailles dans un service ni pullman. On va louer un taxi pour aller jusqu'à là-bas. Et comme j'étais, c'est vrai, fatigué, tout ça, j'ai dit oui, pas mal, c'est très bien, je paierai le taxi. Et là, le taxi, il est resté toute la journée avec moi. Mmh. Donc, on a été à l'attaquier. De l'attaquier, on a distribué un petit peu, toujours à des blessés de guerre. Puis ensuite, j'ai été à Jablé qui était où j'avais des parents. Et là, ils m'ont pris à bras ouverts et j'ai dit, voilà, je n'ai pas de temps à perdre, je vais faire ça et ça et ça, ça pour distribuer une certaine somme à des gens pauvres, faites-moi la liste. De toute façon, tout le monde m'a fait une liste et homologuée par un fonctionnaire d'État ou un truc comme ça. Il n'y a pas de problème, je les ai. Ensuite, là, à Jablé, donc, j'ai distribué directement aux blessés de guerre et en même temps à toujours des gens très pauvres, c'est-à-dire il y avait pas mal de malades de cancer.
Ah oui.
Ouais. Aussi bien à Homs que à Tartous, que à Jablé, à l'attaqué, j'ai constaté dans les listes qu'il y avait beaucoup de malades de cancer. Bon, de là, j'ai déjà effectué plus de le trois quarts. Alors, à Massiaf, qui se trouve, si vous voulez, pas loin de la mer, à 60 km. À 60 km de la mer, Massiaf. Et là, bon, j'ai rencontré une association qui s'occupe uniquement de l'enterrement. C'est une association qui paye le linceul et, si vous voulez, creuser le trou. Vous savez que là-bas, dans le pays musulman, il n'y a pas de caveau. On enterre directement dans la terre et on fait tout autour... du béton de telle manière que les bêtes ne viennent pas détruire. Enfin, mm-hmm. Ouais. Alors là, cette association, j'ai donné, comme j'ai vu le personnel qui travaille dedans et on les connaît de longue date, j'ai donné une somme assez importante de telle manière qu'ils puissent vraiment plus d'une centaine de personnes s'il y a des enterrements. Mm-hmm. Ils étaient très heureux. Puis ensuite, dans mon village natal, et que oui, j'oublie pas.
C'est ça qu'il faut dire.
Oui, dans mon village natal, j'ai demandé au directeur de l'école, comme d'habitude, et à un fonctionnaire d'État qui travaille, je leur ai demandé de réunir les gens qui sont pauvres, les blessés de guerre, et même, il y avait une cimetière de martyrs que j'ai toujours financée. Et là, bon, ils ont fait rapidement la réunion dans une école. Tout le monde était présent, tout le monde assis sur le banc. et j'ai distribué des enveloppes, comme d'habitude, à chaque personne de l'ordre, comme je t'ai dit, 50% de salaire normal d'un ouvrier syrien ou d'un militaire. Voilà. Donc j'ai complètement fait à peu près le tour du problème, le problème des dons. Et après, au bout de 14 jours, enfin, j'étais tellement fatigué à plat, j'ai pris l'avion avec le docteur Khalil qui est venu pour essayer de s'informer un peu plus sur son travail, surtout neurochirurgien. Mmh. Voilà. Après, bien sûr, bon, je me suis remis, ça va, tout va bien.
Eh bien, bravo, Habib.
Voilà, mais tu as fait ce que tu avais prévu dans des circonstances difficiles et tu as apporté, voilà.
Vraiment, je vous dis, ils ont essayé, jusqu'à présent, ils essayent de mettre la Syrie à genoux. Bon, c'est vrai que la Russie, elle est occupée avec le problème de l'Ukraine. Et que le problème syrien subit encore davantage de pression.
Bien sûr.
Alors, le pétrole, l'essence, ils ont des cartes, la plupart des gens, les fonctionnaires, les industriels, tout le monde, en fait, les médecins, tout ça, ils ont des cartes, ils bénéficient de 20 litres d'essence tous les 10 jours. Mmh. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est vraiment loin d'être suffisant. Et il y a toujours... pour 8 centimes ou 10 centimes le litre. Hein.
Ah ça, oui, d'accord.
Oui, oui, oui. Par contre, après, c'est multiplié par 100.
Ah, quand on sort
dans le marché noir.
Oui, il y a le marché
noir. Alors, dans le marché noir...
Situation de guerre.
Voilà. Mais je tiens à dire, il y a énormément de pauvres dans la misère. Mmh. Il n'y a pas de revenus. Le revenu... Il n'y en a pas. Mais il y a tout ce qu'il faut en Syrie, mais il n'y a pas de revenus. Il n'y a rien qui rentre. Mmh. Alors les gens, c'est vrai, ils sont... alors ils mangent, je pense, une fois par mois, et encore, je ne sais pas, je suis gentil, une fois par mois, la viande. Mmh. Le poulet coûte cher aussi, très cher. Bon. La Syrie, ils ont essayé de la mettre à genoux. Ils ont essayé... Bon, d'ailleurs, je ne sais pas, surtout avec ce problème de l'Ukraine et tout ça, ça pose trop de problèmes. Voilà, mais je ne vais pas dire davantage parce que bon. Voilà.
Bon, mais malgré ces difficultés, est-ce que les gens, on dirait le moral, c'est-à-dire ils
alors,
croient
les,
encore...
Alors, les gens, si, ils tiennent, ils le disent d'ailleurs, c'est qu'ils nous font mal, l'Europe, l'Amérique.
Voilà.
Oui, ils le savent, ça c'est sûr et certain, les Syriens, ils savent très bien. Mais ils disent, est-ce qu'on a du répondant à côté? Ils se posent des problèmes. Est-ce qu'il y a du répondant? Est-ce que la Russie va nous aider? Est-ce que l'Iran... Et en même temps, pratiquement tous les 15 jours, 20 jours, l'armée israélienne bombarde.
Elle continue
à bombarder. Donc, bon... Par contre, l'occupation américaine... Elle y est toujours. Elle occupe tout enfin, pas totalement le puits de pétrole et de gaz. Et puis, ils utilisent des mercenaires. Je pense qu'Assad, c'est des mercenaires kurdes qui s'en servent. Et puis, ils s'en servent toujours dans un truc Daesh, Nusra et même certains militaires syriens qu'ils avaient quitté l'armée syrienne au début en 2012.
Des déserteurs.
Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Syrie, surtout au nord de la Syrie. Le grenier, c'est Dezor, Hasaké, tous ces... Du côté de l'Euphrate et le Tigre, c'est le grenier de la Syrie. En même temps aussi, il y avait le pétrole et le gaz que les Syriens avaient pratiquement... Le peuple syrien surtout. C'est le peuple syrien qui subit toutes ces conséquences. Ce n'est pas les milliardaires qui se trouvent ou je ne sais pas
sûr.
Moi. C'est surtout, je peux dire, plus de 60-70% du peuple syrien, ils souffrent. Ils souffrent du fait de l'embargo, surtout César et Castres.
efficace.
Voilà.
On a un cas où effectivement ce pays a été ciblé par les Occidentaux qui veulent sa mort ou le changement de régime, puisque c'est ça le but qui est recherché, changer de régime, ouais. Faire disparaître. C'est pour ça qu'on nous dit toujours Bachar, 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 comme une espèce d'obsession, hein, parce qu'ils savent que ce personnage a fait un rôle dans la résistance tout à fait central, et que c'est autour de lui que toutes les énergies nationales se sont rassemblées, ouais. Et qu'il a accepter tout le monde autour de lui. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Oui, oui. Tu parlais du père Zarlaoui. Il faut savoir que toutes les communautés religieuses sont respectées, ont libre accès au président, à son entourage et tout, ce qui est très, très important sur la suite des événements.
Ah oui, le père Zarlaoui, c'était, je crois, catholique orthodoxe. Tous les catholiques, toutes tendances, les maronites, les orthodoxes, les grégoriens, tout le monde, ils ont dit qu'ils arrêtent. L'Europe, on n'a pas besoin qu'ils interviennent dans nos affaires. On est très bien en Syrie. Ça, c'est d'ailleurs, comme moi, tu le sais. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est bon de le rappeler parce que derrière cette position de l'Europe et des États-Unis, il y a la position d'Israël, qui n'a jamais accepté que la Syrie ne supporte pas d'avoir une partie de son territoire volée par les sionistes.
C'est et ça en plus de ça, la Syrie, c'est le pilier central de toute la résistance du Moyen-Orient.
Tout à fait.
Alors, il ne faut pas oublier qu'elle toujours, elle est pour la Palestine.
Bien sûr.
Et alors ça, l'Israël et l'Amérique, ils ne veulent pas accepter. Pas, d'ailleurs... Ouais. Il y a le problème du Liban avec ses frontières maritimes.
Bien sûr, bien sûr. Non, et puis là aussi, les régimes arabes, on les met tous sur le même... Enfin, même pied, même pas. Il y a certains qu'on considère comme sympathiques. Alors, il faut l'histoire de la Coupe du Monde de football pour dire « Ah, le Qatar, c'est quand même pas tout à fait propre, c'est ça. » Mais on ne parle que de cet aspect-là des choses. Ouais, ouais. Ça veut dire que les amis de la France, de l'Occident, sont les régimes les plus réactionnaires. Hein, c'est pas la Syrie, c'est pas le Liban. Tout. C'est les régimes réactionnaires. C'est les monarchies intégristes, c'est ça. C'est ça qu'il faut rappeler. Parce que c'est trop facile de dire « Ah oui, le football, c'est pas joli. Oui, effectivement, il y a eu des morts pour la construction des stades, bien sûr, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il faudrait que le Qatar arrête d'avoir tant d'intérêts français et tant de Français de la couche dirigeante qui lui obéissent ou qui lui font plaisir ou qui se font acheter. Il faut utiliser ce terme-là. Parce que c'est bien joli de dire « Ah, ils ont acheté un club de football ». Mais ça ne veut pas dire ça. Acheter un club de football, c'est acheter une partie de l'espace médiatique français. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et donc, c'est au centre, être au cœur du capitalisme français. Bon, alors, bien entendu, quand on choisit ses amis comme ça, on a les résultats qu'on a, effectivement. Sur les stades, il y a eu beaucoup de morts. Bien entendu qu'il y a eu beaucoup de morts. Mais est-ce qu'on en a parlé au moment où ces gens-là mouraient ? Non. C'est maintenant. On se donne bonne conscience.
Et puis, ça, c'est climatisé.
Oui,
c'est
voilà. Mais c'est quand même trop facile. Quand même trop facile. Parce que pendant que ça se construisait, tout ça a été su. Personne ne s'est prononcé. Et personne n'a dit « Ah ben parce qu'une mesure de boycott, parce qu'ils n'en mourraient pas. » Alors je vais faire hurler des auditeurs. Après tout, une équipe, je ne dis pas l'équipe de France, n'importe quelle équipe d'un pays qui dirait « Mais moi, je ne vais pas jouer là-bas, c'est tout, point à la ligne. » Ça ferait un événement considérable, politiquement considérable. J'attends l'équipe de ce pays qui dirait « Je n'y vais pas. »
Hein, exactement.
Ça n'aura pas lieu. Ça fait partie des buzz médiatiques qu'on nous occupe. Il n'y aura pas d'écran géant avec la Coupe du Monde de football et tout. Mais on s'en fiche. D'abord, tous les gens qui voudront le voir à la maison le verront à la maison parce que ça sera hyper couvert. Tous les droits de rediffusion ont été achetés à des prix considérables par toutes les chaînes de télévision. Ouais. Alors, il faut arrêter de nous raconter des histoires sur ces braves Qataris. C'est pas vrai. C'est pas des braves pays. Le pays arabe qui souffre, les pays arabes qui souffrent, c'est les pays où il y a le respect de toutes les convictions religieuses, où il y a le respect de tous les groupes de la population, c'est le Liban, avec d'énormes difficultés.
Ah oui, le Liban est en difficulté
terrible. C'est la Syrie.
Terrible, ouais.
Hein, voilà, d'autres pays, mais ce n'est pas cela. Donc arrêtons de dire qu'il y a des gens bien et des gens pas bien. Non, c'est un tri qui est très trompeur, c'est un tri qui se fait sur la base de la richesse. Hein. C'est les riches. Hein, qu'ils soient saoudiens, qu'ils soient émiratis, qu'ils soient qataris, c'est ça qui fait. Et pendant ce temps, il y a des Syriens qui meurent, il y a des Yéménites qui meurent, il y a des Libanais qui meurent. Voilà. C'est ça qu'il faut rappeler. On ne le dit pas assez et on amuse la galerie avec des comédies sur les stades du Qatar. C'est des comédies.
C'est surtout, je voudrais dire, que le Liban a subi encore plus fort que la Syrie.
Mais bien sûr.
Puisqu'à 1 euro, il vaut dans le 35 000 livres syriens.
Oui,
libanais.
La monnaie libanaise s'est effondrée.
La pauvreté, la misère. Bon, voilà. C'est dû à quoi hein? À l'embargo américain, voilà. À l'embargo occidental.
Bien entendu.
Qu'on le dise clairement, voilà.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors à propos de Liban, puisque tu évoquais le sujet, on a parlé, et on parle encore, de l'exploitation du gaz sous-marin.
Voilà, c'est intéressant.
Alors c'est d'autant plus intéressant que tout d'un coup, alors on sait qu'il y a un conflit ouvert, enfin un conflit, une opposition politique claire entre la position du Liban et la position d'Israël sur la limite des eaux territoriales pour savoir si le gros gisement de gaz qui est aujourd'hui exploité et un autre qui pourrait l'être sont dans les eaux territoriales libanaises ou dans les eaux territoriales syriennes. Bon, israélienne, pardon. Et ce qui s'est passé, alors ça c'est très très révélateur, c'est que les États-Unis, l'équipe à Biden est arrivée, on va essayer de faire le jugement de Salomon, on arrive, on va regarder où passe la frontière, regarder les cartes, et on va donner un avis. Un avis. Bon, ils ont donné un avis, bon, et vous savez ce qui s'est passé ? Israël a dit, mais on n'en a rien à faire, c'est tout. Vous pouvez dire ce que vous voulez, nous on s'en moque de votre avis.
Exactement.
C'est-à-dire que nous, on va continuer à pomper le gaz, que le gaz soit libanais ou qu'il ne soit pas libanais. Hein ? Alors, voilà les comédies médiatiques auxquelles on se livre devant nous. On dit, les États-Unis font l'arbitrage. Ils font l'arbitrage de rien du tout. Les États-Unis sont, comme d'habitude, couchés devant Israël.
Voilà,
c'est tout. Hein ? Voilà, il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Alors, bien sûr, on va dire, Israël est très, très remonté sur ses positions parce que Israël est en train de préparer une xième campagne électorale et c'est auquel des candidats sera le plus radical contre le Liban. Bon, ça, on a compris.
Moi, j'ai constaté, chaque fois qu'il y a des problèmes au Moyen-Orient, Israël est en... Comment on appelle ça ?
Ils n'arrêtent pas. Ils ont des élections une fois par an.
Des à chaque fois.
Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une majorité politique parlementaire. Donc ça continue. Et donc là, chacun des candidats potentiels au poste de Premier ministre israélien, dans 2 mois, fait de la surenchère. Je suis le meilleur défenseur des intérêts israéliens. Et donc je le fais sur le dos des voisins libanais. Hein, et puis de temps en temps, je vais jeter une bombe sur Damas au passage. Bon, c'est ça. Et ça continue. Et je voulais surtout souligner l'hypocrisie des États-Unis qui disent j'arrive, je vais me mettre là, trôner en disant bon, jugement de Salomon, on est tout à fait ça. Voilà, bon, écoutez, là je pense qu'effectivement les Libanais ont le droit. Et les Israéliens rigolent en disant mais on s'en fiche, tu peux dire ce que tu veux, on se moque de toi, on se moque de toi, on te tire la langue. C'est ça qu'il il faudrait qu'il comprenne, M. Biden. Alors lui, il fait ça, lui aussi, il est en campagne électorale. Il se dit peut-être dans mon électorat, il faut que je fasse croire que je critique un peu Israël, que c'est pas bien. Hein. Ouais. Alors il croit que ça va lui rapporter quelques voix. En Israël, ils disent exactement le contraire. Ils croient que ça va leur rapporter des voix. Mais tout ça est sinistre. Tout ça est sinistre. Parce que où est le droit, là ? On sait, ça n'a pas d'importance. Il y en a un qui fait l'arbitre, l'autre qui dit je m'en fous de l'arbitrage. Et voilà. Ça ne veut rien dire. Hein. On attend. Alors, dans un monde qu'on pourrait imaginer correctement organisé dans le respect des lois, ben, il y aurait quelque part une juridiction qui dirait ben là, c'est chez les uns, et là, c'est chez les autres. Point à la ligne. Et on ne bombarde pas le tribunal. On respecte la décision du tribunal. Ouais. Mais là, c'est une comédie américaine plus une comédie israélienne. Hein, résultat, le pillage du gaz libanais va continuer. Alors, ça ne met pas en cause, effectivement, le nouveau gisement. Où là, je pense que le Liban va se défendre. Et il va se défendre d'autant plus qu'il a dit qu'il ne supporterait pas qu'à nouveau... Alors, ce n'est pas le Liban, c'est le Hezbollah qui a été parfaitement clair. Et donc, du coup, ça commence à faire réfléchir dans les chancelleries, comme on dit. Le Hezbollah a dit, si jamais vous continuez les travaux de forage et donc d'exploitation de ce gaz-là, qui est du gaz libanais, nous riposterons. Alors là, on change de discours, on n'en est plus à dire où est la limite, où est la frontière, s'il y a un arbitre et tout. Ah, à partir du moment où il y a quelqu'un qui dit, s'il n'y a pas de loi, il y aura la force, vous avez compris ? Et comme il y a quelqu'un qui est au Liban à la force et qui s'appelle le Hezbollah, là, on commence à s'émouvoir dans les chancelleries. Hein. Mais il faut en arriver là. C'est-à-dire, puisque vous êtes assis sur le droit, ben je vais vous dire que s'il n'y a pas le droit, ben il y a le rapport de force. Hein. Et le rapport de force, ça veut dire, alors, aller attaquer par sous-marin, par drone, de toute façon, toutes les installations que vous pourrez mettre en œuvre pour exploiter ce gaz libanais.
Ouais. C'est la même chose qui s'est passée en Russie avec l'Ukraine. Voilà. Et après, on dit que c'est la Russie qui agresse. Mais
voilà.
Non, elle ne fait que se défendre.
Alors, en plus, il faut savoir, c'est l'évidence, que si le Liban avait accès à ce gisement de gaz, à son exploitation, d'une part, il aurait de l'énergie pour lui, il deviendrait exportateur, il sortirait de la misère. C'est ça. Donc, c'est la position d'Israël et des États-Unis consiste à rester crevé dans votre misère. Vous avez le droit de mourir, on ne vous aime pas. Hein, c'est génocidaire. Hein, c'est une position.
Mais c'est un peu comme l'occupation américaine du gaz et
personne,
du pétrole syrien.
Personne ne veut le dire. C'est ça qui devient très, très insupportable. C'est ce qu'il fallait dire. En tout cas, grand merci. Tu as apporté du bien et de la chaleur humaine à des gens qui en ont besoin, à des gens qui sont déjà au terme de leur 11e année de guerre. 12e année de guerre, avec occupation étrangère, financement étranger, exaction de tous ordres et bombardement, pas quotidien, mais assez régulier, des voisins israéliens. Ça, il faut le dire aussi. Et puis matériel, en voulu, en voilà, matériel qui arrive, formation, salaire pour les terroristes, etc. Tout ça est connu.
Surtout financé par des pays arabes. Hein.
En plus, voilà, financé par des pays arabes. C'est pour ça que c'est bien facile de dire les pays arabes. Les pays arabes, mais non. Il y a à boire et à manger. Quand même.
Exactement. Ouais.
Voilà. Donc ça nous a fait une petite visite dans ce secteur-là du monde. On va évidemment, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler de ce qui s'est passé ces derniers jours en Ukraine, parce que ça devient très, très intéressant à suivre. Ouais. Alors, il y a eu... Oui, je regarde. Non, on est dans les temps.
Oui.
Il y a eu, donc ça vous en avez tous entendu parler parce que c'est monté à des niveaux médiatiques extraordinairement élevés, le fameux, pardon, attends, dis-nous Aïcha.
Il y aura bien l'émission d'après qui...
Ok, ça va, donc on fait attention. Voilà. Donc vous avez tous su que le viaduc de Kertch avait été attaqué. Alors qu'est-ce que c'est que le viaduc de Kertch? Alors regardez la carte, au fond, en haut à droite de la mer Noire, il y a un petit goulet et puis derrière est ce qu'on appelle la mer d'Azov. Hein,
c'est ça.
Qui est donc le débouché du fleuve russe qu'on appelle le Don. Un des deux grands fleuves de Russie. Donc le détroit de Kertch est un détroit qui est assez petit, qui permet de passer donc, du côté qui, jusqu'à la semaine dernière, était le côté russe, au côté qui était le côté de la Crimée. Et ce qui s'est passé, c'est que le projet donc, de faire un pont sur le viaduc de Kertch est un vieux projet du temps de l'URSS et tout, je crois même du temps des tsars de faire quelque chose. Mais
les tsars, ils ont
les tsars, oui. Mais c'était compliqué parce que le sous-sol n'est pas très bon, c'était un peu compliqué à faire. C'était cher puisque ce viaduc de Kertch donc, qui a été ouvert en 2018 a quand même coûté 8 milliards de dollars. Donc c'est un gros travail, c'est plusieurs kilomètres avec, en fait c'est un double viaduc.
Il y a 18 127 mètres. Quoi.
Voilà. Oui, exactement. Et donc, c'est un double viaduc avec un viaduc ferroviaire qui est en haut et un viaduc autoroutier qui est un peu en dessous, à un niveau inférieur.
C'est ça.
Voilà. Donc, double viaduc avec les circulations séparées, donc deux voies ferrées dans un sens et deux voies routières dans un autre, dans les deux sens, en dessous, à un niveau légèrement inférieur. Bon. Ce qui se passe, donc, c'est que le samedi 8, alors, évidemment, ce viaduc était l'objet de la surveillance de tous les services secrets, qu'ils fussent hostiles à la Russie ou qu'ils fussent russes, parce qu'on savait très bien, et ça avait été dit plusieurs fois, que ça faisait partie des objectifs de sabotage évidents. Évident, hein, puisqu'en fait, jusqu'à l'intervention russe du mois de février de la Russie, le viaduc de Kertch était la seule voie de passage entre la Russie et la Crimée, qui était russe, puisqu'elle a décidé de devenir russe en 2014. Donc c'était extraordinairement sensible, et vous imaginez que c'était surveillé de près, et qu'en même temps, du côté des saboteurs et des stratèges occidentaux, faire sauter le viaduc, c'était un objectif évident. Alors, ça a eu lieu sans avoir lieu. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'était une opération compliquée, mais qui n'a pas été une opération dramatique, qui aurait dynamité toute une série de fois, une opération de guerre très, très avancée, avec des missiles, enfin, on peut imaginer tout. Hein. Mais ça a été une opération un peu, j'allais dire, je pardonne pas, un peu artisanale, un peu bricolée, hein, une espèce de sabotage au niveau terrorisme de base, qui a consisté à faire venir un camion, donc depuis le côté anciennement russe jusqu'au côté Crimée, un camion chargé soi-disant d'emballage et qui était chargé d'explosifs, Et donc, avec un conducteur kamikaze qui s'est fait sauter avec son camion, le camion a explosé. Et comme il y avait sur la voie ferrée qui passait juste au-dessus des wagons pleins de carburant, les carburants ont brûlé. Ça a pris feu. Donc, voilà. Donc, il y a eu un assez, j'allais dire, pardonnez-moi, un joli spectacle médiatique. Hein, l'explosion, les wagons qui brûlent sur ce viaduc et tout. C'est au point... Alors, écoutez le niveau de propagande dans lequel on se trouve. Cette photo, donc cette photo que vous avez pu voir autant de fois que vous le voulez sur les réseaux sociaux, était le lendemain disponible dans le bureau de la poste ukrainienne avec un couple d'Ukrainiens, deux jeunes, qui dansaient de joie devant ce feu. La poste ukrainienne, le dimanche matin 9 octobre, a publié un timbre pour célébrer l'attentat. Bon, alors je vous dis pas qui a fait l'attentat, mais enfin on voit qu'il était content en tout cas. Bon, voilà. Bon, donc c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et alors après, il y a eu des réactions tout à fait importantes. C'est un acte de sabotage réel qui a été assez vite décortiqué par les services secrets russes, puisqu'en fait on a compris qu'il y avait donc deux camions, un camion qui avait embarqué les explosifs en Bulgarie. Au port de Varna, qui les avait déposés, enfin un bateau les avait déposés au port géorgien de Poti. Et de là, de Poti, le deuxième camion avait passé la frontière entre la Géorgie et l'Arménie. Pourquoi il était passé par là? Parce que l'Arménie fait partie d'une zone de libre-échange avec la Russie, et donc le passage est relativement facile. Ça n'aurait pas été le cas avec la Bulgarie, qui est dans l'Union européenne, qui est hostile, etc. Ni avec la Moldavie. Bon. Donc le deuxième camion arrive, il est chargé d'explosifs. Il a à sa tête, il a à son poste le chauffeur kamikaze, qui, paraît-il, est un djihadiste syrien, qui a été réutilisé pour la bombe, on a trouvé donc sur le terrain syrien le monsieur qui était prêt à faire ça, et donc qui vient se faire sauter le samedi matin avec son camion au moment où il est au niveau des deux wagons ou des trois wagons de carburant qui vont pouvoir faire le feu de joie ukrainien. Voilà comment ça se passe. Bon, tout ça est à peu près éclairci. Les services de renseignement russes sont allés très vite parce qu'effectivement, une fois qu'on a les numéros des camions, les photos, etc., tout ça se fait assez vite. On connaît le nom du propriétaire du camion. Je crois qu'ils ont déjà le nom du propriétaire du kamikaze. Bon, tout ça est fait. Bon, tout ça est parfaitement clair. Mais il y a les suites politiques. Alors, dans la journée de samedi et dans la journée de dimanche, il y a beaucoup de gens qui se réjouissent. Il n'y a pas que la poste ukrainienne. Il y a beaucoup de gens qui se réduisent. Et donc, qui disent « Ah ben, le pont est cassé maintenant, donc ça va bien les embêter. »
Le pont Poutine.
Oui, le pont. Alors on l'appelle le pont Poutine parce que c'est vrai que alors, j'ai souvenir des images de l'époque. C'est-à-dire, on voit arriver, donc côté russe, donc côté est, on voit arriver Poutine qui est en jean et en blouson de cuir. Petite chemisette, il monte dans un camion, il monte dans le camion et il ouvre le convoi pour franchir le pont. Ça, c'est une image dont on se souvient, c'était frappant et c'était exemplaire parce que la Russie avait voulu ce pont, elle l'avait, il avait coûté 8 milliards de dollars, c'était un pont de très très grande qualité, la preuve, il a résisté, il était prévu pour ça, tant mieux. Bon. Et donc, l'idée, c'était de dire, bon, de toute façon, ça va mal se passer, maintenant, la Crimée est coupée de la Russie. Alors d'abord, c'était une stupidité parce que du fait que maintenant la région de Marioupol, etc., est donc une région russe depuis les référendums, le passage entre la Russie et la Crimée, il se fait facilement. Il n'y a plus aucun problème. Même sans le viaduc, ça aurait compliqué les choses.
Partiellement détruit. Les trains
ont recommencé à passer le lendemain. Il y a une partie de la circulation routière qui est rétablie puisqu'il y a au moins une des deux voies routières qui n'a pas été attaqué. Et donc ça va se réparer. Mais il y avait une espèce de jubilation morbide et malsaine de l'Occident en disant « Regardez, on leur a fait du mal. » C'était ça qu'on a ressenti. C'est ça qui était très désagréable. Bon.
C'est vrai, je ne comprends pas l'Occident.
Voilà. Qui joue à ça? Alors après, il y a des dépêches qui circulent aujourd'hui en disant « C'est un coup monté par les services secrets anglais qui ont débordé les services secrets américains. » Alors, moi, c'est pas ce genre de littérature me laisse un peu froid. On n'en sait rien. Les services secrets, c'est secret. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? De toute façon, bon, c'est un coup qui a relativement mal marché puisqu'ils n'ont pas du tout interrompu les les relations entre la Russie et la Crimée, hein, que ça a été rétabli assez vite, et que, par contre, ça a amené la Russie à dire « Ah, puisque vous jouez à ce jeu-là, donc vous menez la guerre sur le territoire de la Russie, il s'agit d'un viaduc russe, hein, entre deux provinces russes, hein, vous menez la guerre sur le territoire de la Russie, c'est une déclaration de guerre en bonne et due forme, qui que vous soyez, vous qui avez organisé cette chose-là, vous qui vous réjouissez, ça veut dire que vous y êtes peut-être pour quelque chose, parce que c'est pas tout à fait le fruit du hasard. » Alors, il y a eu les tentatives, ça a à peine duré la journée du samedi, en disant « Ah, c'est les Russes qui l'ont fait eux-mêmes. » Alors, on nous a refait le coup de la centrale de Zaporoïe. Les Russes se bombardent eux-mêmes, ils cassent leurs installations, ils ont un jouet à 8 milliards de dollars, ils mettent le feu. Enfin, c'est des fous furieux, quoi, tu vois. Ben, bon. Non, mais ça n'a pas duré, parce que ça ne tenait pas le coup, ce genre de raisonnement.
Bon. Ah ben, il y a eu les mêmes raisonnements. Syrie, pareil, ça n'a pas changé.
Oui. Voilà. Alors, donc, ce qui s'est passé, et ça s'est passé hier, donc on est tout à fait dans le chaud de l'actualité, c'est-à-dire que la Russie a riposté. Elle a dit, ah, ça y est, donc on est dans un état de guerre, là, l'Ukraine et l'OTAN directement, m'ont déclaré là, qui que ce soit le service secret anglais, on s'en fout, c'est clair, c'est un état de guerre, vous menez la guerre sur notre territoire, on va riposter. Et maintenant, c'est pas simplement une opération de police, c'est pas l'opération spéciale commencée le 24 février, non. On attaque l'Ukraine parce que l'Ukraine est un repère de fascistes. Et on attaque l'Ukraine. Et ce qu'ils ont fait hier, là, ce qui a beaucoup surpris, c'est qu'ils ont mis en cause, ils ont attaqué le réseau électrique ukrainien. De l'Est à l'Ouest, la totalité du réseau électrique ukrainien a été attaquée dans la matinée d'hier matin. D'hier matin, 10 octobre. Ça veut dire qu'il n'y avait pratiquement plus de courant dans la plupart des villes de toute l'Ukraine hier dans la journée. Que le métro de Kiev ne marchait pas, que les gens n'avaient plus de courant chez eux, qu'il n'y avait plus de réseau Internet nulle part, hein, histoire de faire comprendre que la guerre était vraiment commencée. Alors il ne s'est pas agi, alors je précise, il s'agit bien donc de centrales, de réseaux de câbles, de télévision, de zones d'interconnexion. Il ne s'agit pas de massacre de population, il s'agit d'annihiler le réseau électrique.
De toute façon, ils n'ont pas pu dire que c'est une crime de guerre.
Non, tout à fait. Il s'agit bien de neutraliser. Donc, sans électricité, ce pays ne peut plus faire grand-chose, y compris s'il n'y a plus Internet. Même les généraux ukrainiens ne peuvent plus communiquer entre eux. Ils doivent leur rester de petits téléphones portables. Et encore pour des portables, il faut qu'il y ait des poteaux, vous savez, les réseaux portables. Prix, ouais. Il faut qu'il y ait des émetteurs. Et il faut qu'il y ait un peu d'électricité pour les faire marcher. Quand vous n'avez plus d'électricité, vous ne faites plus grand-chose. Bon. Ça devrait faire comprendre au camp occidental, à l'OTAN, qu'il est venu le temps de discuter de la sortie de la guerre. C'est-à-dire que la Russie a montré que là, elle pouvait effectivement s'en prendre à l'économie de l'Ukraine, que l'économie de l'Ukraine était très très fragile, alors, ou qu'elle était déjà énormément appauvrie par les années de livraison aux intérêts des oligarques, bon, ça on le savait, qu'elle était très très faible et qu'elle devrait, alors, elle devrait commencer à réfléchir à la suite. Alors, on en arrive, et ça n'a pas été dit, mais ça me rappelle que, souvenez-vous de la réunion de Davos au mois de mai.
Ouais.
À Davos au mois de mai, vous avez eu deux discours occidentaux. Le discours de Soros et le discours de M. Schwab consistent à dire « On va les casser, allez-y, faut rentrer dans la Russie, ça suffit et tout ». Et un certain Henry Kissinger, qui n'a jamais été un enfant de cœur, je rappelle, hein, parce que quand même, il a beaucoup de sang sur les mains, même s'il n'a pas fait couler lui-même, Kissinger a dit « Vous devriez négocier, il y a un moment donné où il faudra revoir le partage du territoire ». Kissinger a dit ça au mois de mai à Davos. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine avant l'attaque du viaduc de Kerch ? Le territoire a été revu, c'est-à-dire qu'effectivement, la Russie a intégré 4 provinces ukrainiennes dans son territoire, à la suite de référendums qui ont eu lieu. C'est exactement ce qu'avait annoncé Kissinger. Et il avait dit Kissinger à Davos, si vous ne passez pas par là, je ne sais pas comment vous allez vous sortir de cette affaire. Bon. Alors, on voit que c'est un des pires impérialistes, Kissinger, c'était le mec le plus cynique, le plus froid, mais qui savait à quel moment il pouvait passer en force et à quel moment il voulait mieux qu'il soit prudent. Et là, ce qu'il disait à Davos, c'est « Soyez prudent, faites pas n'importe quoi, vous laissez pas emporter par votre élan, vous ne laissez pas emporter par une espèce de gloriole, hein, l'armée russe a reculé, on a cassé le pont, on a cassé la centrale. » Non, non, là, vous allez nulle part, vous allez nulle part. C'est ça qui se joue maintenant. Et ça se joue tellement que là, on en parlera très très peu, mais c'est ce qu'il faut savoir, c'est que Madame la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Madame Maria Zakharova, a tenu un propos qui est tout à fait intéressant, que je vous livre parce qu'on ne vous le livrera pas pour ce qu'il est et qui est passionnant. C'est-à-dire, elle a dit, il faut que vous sachiez que les contacts entre l'administration des États-Unis et le gouvernement russe sur la question du contrôle de l'armement nucléaire ont recommencé. Ça veut dire qu'on était parti, ouais, 4 minutes. On recommençait. Ouais. Alors, ça veut dire, alors, pour l'instant, il ne reste plus, vous le savez, qu'un seul traité de contrôle des armes nucléaires, un traité de contrôle mutuel, c'est-à-dire les États-Unis contrôlent les armes nucléaires russes et les Russes contrôlent les armes nucléaires états-uniennes. Ce traité s'appelle le traité START. Il est encore en vigueur, mais il mérite d'être mis à jour. Bon. Et ce que Mme Zakharova a dit la semaine dernière, c'est que les contacts ont repris, mais... ils sont compliqués du fait que les sanctions prises par les États-Unis et par l'Union européenne pour les sanctions contre la guerre fait que nous ne pouvons pas nous rencontrer. Or, quand on est... c'est une affaire sérieuse de contrôler les arsenaux nucléaires. Il faut aller voir, il faut se parler, il faut se respecter, pas faire prendre un obus qui n'est pas nucléaire pour un autre. Enfin, voilà. Donc, on est dans des affaires extrêmement sérieuses qui mettent en cause, il ne faut pas oser ne pas le dire, l'avenir de l'humanité. Bon, on le fait ça sérieusement. Mais si on en est à dire « Ah, mais je ne veux pas vous parler, j'aimerais bien, mais je ne peux pas parce que je me suis interdit à moi-même de vous rencontrer », on est dans la stupidité. Donc c'est ça qui est en train de se passer en coulisses. Alors ça, je pense que la direction ukrainienne à Kiev le sait, mais ça la gêne beaucoup parce qu'elle sent que le sol est en train de lui manquer sous les pieds. À telle enseigne que quand on a vu, donc c'était dimanche, non lundi hier, puisque après l'attaque sur le réseau électrique ukrainien, on a vu M. Zelensky dans une rue déserte dire que la lutte continuait. Beaucoup de gens se sont demandé, puisqu'il a dit, mais dans les rues ukrainiennes, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait rien d'allumé, etc. Il était dans la rue, c'était très tranquille. Et l'hypothèse qui circule, je vous la livre, parce qu'elle paraît plausible, c'est qu'en fait, la séquence a été tournée en Pologne. Hein, parce que là, il y a de l'électricité. Hein. Bon, voilà où on en est. Donc, on est au moment où, effectivement, les stratèges, ceux qui ont lancé, qui ont obligé la Russie à passer à l'acte, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, sont en train de se dire, maintenant, il faudrait qu'on revoie un peu la position, parce que, effectivement, là, ça devient grave. Et notre équipe à Kiev, elle n'est plus tellement opérationnelle, elle n'a plus grand-chose, à part des actes terroristes, tuer des gens ici et là dans les rues, ils ne savent plus trop quoi faire. Alors, ils ont essayé la centrale électrique, ils ont essayé le pont, tout ça n'est pas très très brillant, même s'ils ont des amis ici ou là, il faudra revoir la situation. Alors, je suis peut-être anormalement optimiste, mais les éléments de transformation de la situation sont là, c'est-à-dire la riposte au viaduc, à l'attentat sur le viaduc de Kerch a été ferme, rapide. Alors je rappelle, c'est cocasse que ça fait des semaines et des semaines que dans les journaux spécialisés s'occupant à l'aspect militaire du conflit, on disait « Ah ben la Russie se défend pas, elle a plus de missiles ». Or, hier matin, il est tombé une pluie de missiles sur toutes les villes ukrainiennes, hein, depuis la frontière polonaise jusqu'à Kharkov.
Même en profondeur.
Voilà, hein. Même en profondeur. Il en restait, manifestement, il en restait. Donc, tout ça, on aperçoit qu'on a d'énormes rideaux de fumée destinés à couvrir les agissements de cette équipe de Kiev. Et il faudrait que cette équipe de Kiev, si elle a encore un minimum d'intelligence, dise que si elle veut qu'il y ait une Ukraine qui reste, alors qui sera plus petite que l'Ukraine précédente, mais avec un gouvernement qui sera respecté par la Russie, il faut que cette équipe soit respectable, qu'elle soit présentable et qu'elle arrête de faire n'importe quoi et de faire du terrorisme en permanence. C'est ça, l'avenir d'un gouvernement ukrainien. À aucun moment, dans aucun texte des Russes, ni de Poutine, à qui on attribue tout comme s'il était seul au monde et tout, ni de Lavrov, ni de Shoigu, à aucun moment, ils ont dit qu'ils voulaient voir la disparition de l'Ukraine. À aucun moment. Ça n'a jamais été dit. Non, ils ont simplement dit... hein, on a des gens qui veulent rentrer dans la Russie, on les a accueillis, la Russie s'est agrandie, pas rien d'ailleurs, de 100 000 km², c'est quand même un cinquième de la surface de la France. Bon, mais ça c'est fait, et on peut s'agiter dans tous les sens, c'est fait. Et je voudrais finir par le dernier aspect des choses, sur lequel je reviendrai la semaine prochaine, qui est passionnant. C'est-à-dire que la Russie vient de sortir des textes, ou de rappeler des textes, qui sont les articles 106 et 107 de la Charte des Nations Unies, ces articles qui disent que les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, hein, je veux dire, l'URSS, dont la Russie a juridiquement pris la suite, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, sont en droit d'intervenir contre tous les pays qui ont commis des génocides pendant la Deuxième Guerre mondiale. Or, qui sont ces pays qui ont commis des génocides pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Ben, je vous donne la liste. La Roumanie, la Bulgarie, la Finlande, la Croatie, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie et l'Ukraine. Hein ? Et donc, en fait, ce que la Russie est en train de dire, en s'appuyant sur ce texte, mais j'y reviendrai la semaine prochaine et puis on va le diffuser, je pense, c'est de dire, effectivement, nous avons le droit, au nom de la Charte des Nations Unies, de faire ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train, c'est exactement ce que nous avons annoncé le 21 et le 22 février, nous sommes en train d'éliminer les génocidaires et les empêcher de nuire. S'il y a une équipe propre qui veut prendre le pouvoir à Kiev et gouverner, place... qu'elle prenne la place, on ne l'empêchera pas de vivre. C'était tout ce que je voulais dire, voilà. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Merci Habib de ton témoignage. Merci Aïcha. Et demain soir, hein, un petit tour vers l'Indonésie. Bonne journée.
Нас не трогай, мы не тронем, а затронем, пусть не давим. И в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим.
Эй,